Bonjour bien-aimés, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et cette parole de l'apôtre Pierre, qui formulant une prière mais aussi un vœu, il dit à ce collaborateur, à ce frère, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je vous souhaite donc la prospérité. Que cette prospérité s'aligne sur la prospérité de votre état spirituel. Parce que la Bible dit que certes, il a un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Comme pour dire, on peut avoir toutes les prospérités matérielles du monde. Si on n'a pas ce trésor qui est le Seigneur dans notre cœur, bien sûr qu'elle nous sert ici-bas. Mais notre vie est une vie éternelle. Elle commence ici, elle n'a pas de fin. Il y a un passage qui s'appelle la mort, et c'est cette mort qui nous rend dans l'éternité. Et la Bible dit, comment rentreras-tu dans l'éternité? Moi, je souhaite en tout cas que vous prospérez. Que vous prospérez parce que la vie n'est pas simple et qu'on a besoin d'une stabilité financière et sociale. Je souhaite que cette année 2022, que Dieu vous donne de prospérer, d'être à l'abri du besoin, qu'il vous offre des perspectives meilleures, et merveilleuse. Mais ce que je souhaite plus que tout, c'est que votre être intérieur, votre relation avec Dieu prospère aussi, qu'elle grandisse. Que Dieu nous bénisse donc ensemble. Ce matin, ce premier culte de cette nouvelle année 2022 va être un peu le prolongement de ce que nous avons vu ensemble à la fin de cette année. Et une perspective pour l'année 2022. Vivre dans l'attachement au Seigneur, ce que aimer veut dire. Vivre dans l'attachement au Seigneur, ce que aimer veut dire. Je relis donc ce texte que nous avons lu là, le dimanche dernier, comme pour faire une transition entre l'ancien et le nouveau monde dans lequel nous rentrons aujourd'hui. Verset 8 de 2 Pierre chapitre 1. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Vous puissiez en toute occasion vous souvenir de tout cela. Voilà cette parole de cet apôtre, à l'orée de son départ pour l'éternité, convaincu que Dieu lui avait dit que tu partirais bientôt, jusqu'au dernier souffle, cette mission qui était la sienne, il n'a cessé de la proclamer, de la dire. Et donc, vas-y s'il te plaît, nous devons nous rappeler donc, puisque c'est ce que l'apôtre a voulu faire par la force que Dieu lui a donnée, ce rappel. Nous rappeler que cet apôtre, poussé par l'Esprit de Dieu, nous a invités, à cause de l'appel qui est le nôtre, à cause du choix que Dieu a fait de nous rappeler que nous devons ajouter à notre foi. La foi, c'est cette confiance en Dieu, cette fidélité, cette conviction profonde que Dieu existe et que ce qu'il dit dans la Bible est vrai et que nous voulons y croire, pas juste y croire, mais le pratiquer aussi. Il dit donc, ajoutez à cette conviction, ajoutez à cette foi, à cette fidélité, ajoutez la bonne conduite, j'en ai déjà parlé. Ajoutez à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. Ajoutez à la vraie connaissance de Dieu la maîtrise de soi. Ajoutez à cette maîtrise de soi la persévérance. Ajoutez à cette persévérance l'attachement à Dieu, à l'attachement à Dieu l'affection fraternelle ou l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Les croyants qui ne font pas de progrès dans ces 7 domaines sont oisifs, dans le sens qu'ils sont inefficaces, qu'ils sont inutiles. Or, le principe pour lequel Dieu se repent dans le cœur des hommes, c'est que justement les hommes et les femmes qui l'acceptent dans son cœur, dans leur cœur, soient actifs et soient utiles. Utiles non seulement pour eux-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour les autres. Ceux qui n'ont pas ces 7 qualités, ou du moins qui ne progressent pas dans ces 7 qualités, sont aussi stériles. Stériles dans la connaissance, dans la pleine connaissance du Seigneur. Parce que le texte dit, cette parole dit, plus nous manifestons, plus nous pratiquons ces 7 choses, cela nous montre que nous continuons de connaître encore plus le Seigneur. Puisque la Bible dit que nous sommes appelés à maturer à la statue parfaite de Christ. Que nous sommes invités à lui ressembler. Comment nous faisons ça? Quel est le critère qui nous permet d'observer que nous sommes en train d'évoluer dans ce sens-là? C'est ces choses-là, qui sont des choses concrètes, pratiques de la vie de tous les jours. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, connaissent le Seigneur, celui qui sauve. Nous le connaissons parce qu'il nous sauve des dangers, parce qu'il nous sauve du péché, parce qu'il nous met à l'abri, et que c'est un acquis qu'il nous a octroyé par son sacrifice, pour lequel nous n'avons pas dû payer grand-chose, à part lorsque l'appel de Dieu a retenti dans nos cœurs, à part d'avoir été attentif à cet appel et d'avoir ouvert nos cœurs. Nous ne sommes pas allés à la croix. Nous ne sommes pas charcutés pour avoir le salut. Nous n'avons pas eu à faire des sacrifices bizarres, ultimes, dangereux. Il nous a suffi juste d'être attentifs à la douce voix de Dieu et d'ouvrir nos cœurs. En tout cas, dans mon expérience à moi, ça n'a pas coûté grand-chose. Ça m'a coûté le courage d'aller voir ce cousin, de lui poser une seule question sur une incompréhension. Et c'est là que le salut m'a été accordé, par la prédication de l'évangile qu'il m'a faite ce soir-là. C'est là que mon cœur s'est ouvert. Ça m'a coûté juste le courage d'aller poser une question à mon cousin, dans un moment existentiel de ma vie. Ça m'a coûté que ça. Mon cousin ne m'a même pas demandé de l'argent. Il ne m'a pas dit, Serge, tu sors, tu cherches un coq orange blanc vert, si tu en trouves, tu l'égorges et tu fais 10 600 choses et tu reviens me voir. Non, ça n'a pas coûté ça. Dans certaines religions à mystère, dans certaines religions ésotériques, on vous demande plein de choses. Pour être des initiés, on vous demande plein de choses. Pour faire partie du club, on vous demande un certain rite d'initiation. La foi chrétienne est tellement simple que finalement, on a l'impression que c'est rien. Alors, ce sauveur qui a tout fait pour nous, malheureusement, nous restons à cette étape de nos vies et nous n'avançons pas vers cette reconnaissance pour grandir dans les fruits qu'il nous offre. Et je l'ai déjà dit, il le dit dans ce texte, la nature divine est en nous. Il a déposé ce potentiel en nous. C'est à nous à chaque fois d'activer pour que cette énergie se manifeste. Nous sommes invités à faire des progrès dans notre vie spirituelle. Nous sommes invités à ne pas rester des enfants spirituels. L'apôtre Paul le regrette lorsqu'il parle aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Il dit, je regrette encore que vous soyez à ce stade. Vous auriez dû être déjà des adultes spirituellement. Mais vous êtes encore au stade où je suis obligé de vous enseigner les B.A.B.A. Donc les syllabes de base de la foi chrétienne. Il dit, vous avez encore besoin de lait comme des bébés. Mais il dit, c'est pas grave, je vais vous en donner. Parce que mon projet pour vous, poussé par Dieu, c'est que vous continuez de grandir. Et j'ai bonne espérance que vous ne resterez pas des bébés, que vous grandirez. Alors, pour entrer dans ce progrès, il nous faut des balises. Vous savez, c'est comme si vous avancez sur un itinéraire, vous allez d'un point A à un point Z, vous avez besoin de repères. Il y a des repères qui vous disent que vous êtes dans la bonne direction. Par contre, il y a d'autres repères qui vous disent non, là, si vous voulez aller à Marseille et que vous voyez un panneau qui dit direction Normandie, vous savez que là, n'est-ce pas Willy, vous savez que là, vous êtes vraiment trompé. Parce que c'est la direction opposée. Et nous avons besoin de ces balises-là pour savoir comment nous progressons. Et je vous propose un texte majeur qui a été déjà évoqué par le président de ce culte, par Eric Zali. C'est un texte qu'on appelle l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Il est plus vaste ce chapitre. Mais j'aimerais focaliser notre attention ce matin sur ces 4 versets. Ce qu'aimer veut dire. Ce qu'aimer veut dire. Vas-y, s'il te plaît. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Amen. L'amour est éternel. On voit dans ces 4 petits versets 3 structures. L'amour qui est indispensable, ce que aimer veut dire, et puis l'amour est éternel. La parole de Dieu place le chrétien devant la réalité quotidienne dans laquelle l'amour doit se manifester. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des humains, nous vivons ici. Et c'est ici et maintenant que Dieu veut que nous apprenions à manifester cette vie d'amour. C'est pas pour après, c'est pour aujourd'hui. Quand donc nous lisons dans ce texte de 1 Corinthiens 13, l'amour est, en fait, il faut traduire celui ou celle qui aime, voilà ce qu'elle doit vivre. Celui ou celle qui aime, voilà comment elle doit se comporter. Cet hymne à l'amour n'est pas un hymne comme parfois. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Mais vous savez que les hymnes nationaux, lorsqu'ils ont été édités et qu'ils ont été mis en musique, c'était une histoire particulière d'un moment particulier de chaque État, de chaque nation. Et quand vous prenez les paroles de l'hymne national français, ça situait, ça dit une histoire d'un moment donné. Et ça dit des choses fortes. Et chaque hymne national de chaque pays dit des choses fortes par rapport au pays lui-même. Et les concepteurs des hymnes espéraient que ces hymnes ne soient pas juste des chants, mais qu'ils soient des leitmotifs. Que ce soit une vision que chaque enfant du pays puisse porter dans son cœur et que chaque citoyen puisse articuler dans son quotidien. C'est ça un hymne national. C'est pour ça que quand un hymne national est bafoué, c'est un pays qu'on bafoue. Et cet hymne-là, c'est un peu... Sinon, c'est plus qu'un hymne national. L'apôtre Paul dit, voilà ce que Dieu met sur le chemin de celui qui veut voir comment il progresse dans l'amour. La Bible, dans ce passage, n'emploie presque que des verbes d'action. Généralement, dans notre conception de l'amour, l'amour est plus une émotion, un sentiment. Dès que nous évoquons amour, nous pensons sentiment, nous pensons émotion. Donc, nous pensons quelque chose de subjectif, quelque chose qui est de l'ordre de l'insaisissable. Mais l'amour n'est pas que sentiment. L'amour n'est pas que émotion. L'amour est aussi ce que nous allons voir maintenant. L'apôtre Paul nous dresse globalement 2 caractères positifs de l'amour et 8 façons d'agir qui sont contraires à l'amour. et ensuite il dira quelques paroles. Voyons déjà les deux caractéristiques positives de l'amour. Il dit celui qui aime, donc traduisez l'amour par celui qui aime, prend patience. Celui qui aime endure avec patience. L'accent ici est sur une façon d'agir et non sur un état. Hein? Vous savez, tu peux dire que tu es patient, mais c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de patient. Pour dire que tu es patient, il faut que dans l'épreuve, ça se voie. Il faut que dans la vie, ça se voie. Si on travaille à la patience, on donne des chances à son amour de grandir. Le plus patient d'entre nous tous, c'est le Seigneur. L'apôtre Pierre dit dans cette même épître, si le Seigneur tarde, mais il ne tarde pas, c'est parce que le Seigneur est patient. Pourquoi il est patient? Parce qu'il veut que tous entendent la bonne nouvelle et que tous aient l'opportunité de dire oui. Parce que certains disaient aux disciples de l'apôtre Pierre, ouais, mais depuis, vous dites que le Seigneur revient et depuis, il ne revient pas. L'apôtre Paul dit, si le Seigneur est patient, c'est parce que sa patience, c'est pour que autant d'êtres humains que possible puissent entendre la bonne nouvelle et l'opportunité de répondre oui. C'est de cette patience qu'il s'agit. La patience en question ici est davantage celle qui s'exerce à l'égard des personnes plutôt que des circonstances. Et bien encore à l'égard des êtres aimés. L'un des ingrédients dans le couple, c'est la patience. L'un des ingrédients de relation parent-enfant, c'est la patience. L'un des ingrédients dans les amitiés, c'est la patience. L'un des ingrédients dans les relations humaines, c'est la patience. C'est la non-patience qui nous fait dire souvent avec peut-être une douleur parce que l'autre nous a offensé ou il a eu un comportement, tu ne changeras jamais. Moi, je me suis convaincu que je ne suis pas assez divin pour dire à quelqu'un, tu ne changeras jamais. Parce que je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. Qui je suis pour dire à quelqu'un, tu ne changeras jamais? Nous sommes la preuve que Dieu est capable de nous changer, n'est-ce pas? Ce que nous étions avant, ce que nous sommes devenus après notre conversion, oula! Heureusement que Dieu est passé par là. Heureusement qu'il continue de demeurer avec nous. Il ne s'agit pas simplement de supporter les épreuves de la vie, mais de faire preuve de patience envers son prochain et envers l'être aimé, et de supporter longtemps, malgré parfois les raisons que nous pouvons avoir de laisser tomber et de nous venger. L'un des artisans de cette patience vient de décéder. Il était connu dans le monde entier. Il a été prix Nobel de la paix en 1994, Desmond Tutu, évêque anglican de l'Afrique du Sud. Quelqu'un qui a marqué son histoire, noir qu'il était, il dit, il a fallu que j'attende mes 74 ans pour avoir le droit de vote dans un pays qui m'a vu naître. Et pourtant, il a jamais utilisé de violence. Il a même réprimé ses frères noirs, il leur a reproché d'utiliser la violence, même quand il savait que cette violence était quand même le résultat d'une autre violence contre eux. Il a été patient dans ce pays qui a vécu l'apartheid et il a vu le jour où les choses ont changé. Il a vu le jour où les choses ont changé. Il dit, enfin, ce matin, nous avons le droit d'aller voter après tant d'années. Quand je vois l'histoire de gens comme cela, je me dis, mes petites tensions, mes petites histoires, je suis impatient. Franchement, Seigneur, donne-moi la force. Parce qu'il y en a qui ont d'autres contextes où ils sont patients et moi, que Dieu nous aide bien aimés. La patience. Le deuxième caractéristique positive de l'amour, c'est celui qui aime agir avec bonté. Celui qui aime agir avec bonté. Il se met au service de l'autre. La forme de bonté qui consiste à se mettre au service de l'autre. La bonté, je sais pas s'il faut définir ce que c'est que la bonté. Je pense qu'on sait tout ce que c'est que la bonté. C'est pas le savoir qui est le plus difficile, c'est le vivre au quotidien. Il y a tellement de contraintes, tellement d'oppositions, tellement de choses contraires qui font que on est plus enclin à perdre la bonté que de croire dans la bonté, parce qu'il y a la méchanceté en face, parce que il y a l'ingratitude en face, parce qu'il y a l'indifférence en face, et on peut facilement perdre cette bonté-là, parce qu'on est des humains aussi. C'est pour cela, rappelez-vous, que le texte dit au début, au verset 3 jusqu'au verset 7, Dieu nous a donné tout ce qui est utile pour que nous vivions comme des enfants de Dieu. Donc, toutes ces choses dont l'apôtre Paul, donc le deuxième apôtre, en tout cas, la Pierre en parle, Paul en parle, ne sont pas une utopie. Ça veut dire, c'est pas des choses que nous vivrons excellemment un jour dans le ciel. Non, c'est des choses que nous devons commencer à vivre ici et maintenant et bien les vivre du reste. Patience et bonté sont deux caractéristiques essentielles de l'amour. Patience et bonté. Deux caractéristiques essentielles de l'amour. Voyons maintenant huit façons d'agir qui sont en contradiction avec l'amour. Huit façons d'agir. Déjà les quatre premières façons d'agir qui sont en contradiction avec l'amour. Celui ou celle qui aime n'est pas animé d'une passion jalouse à l'excès. Hein? La jalousie peut être un bon sentiment dans le sens où l'être aimé, on dit Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il n'aime pas nous partager avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait que les autres dieux n'existent pas et que nous nous fourvoyons en allant vers les autres dieux. Okay? Donc cette passion, cet amour jaloux de Dieu veut dire simplement que Dieu nous aime trop et il nous garde tellement bien qu'il est toujours malade que nous puissions ne pas le sentir ni le reconnaître. Mais l'amour jaloux à l'excès, c'est l'amour qui veut garder l'autre que pour soi, qui ne veut que l'autre soit qu'à son image, à lui. L'autre est un être aussi humain. L'autre est un être différent de moi. C'est ça qui fait la beauté dans le couple et dans la famille. Si tous les enfants se ressemblaient, je ne sais pas. Le monde serait peut-être pauvre. Les familles seraient peut-être pauvres. Les familles sont complémentaires dans toutes les individualités que nous avons dans nos familles. Je parle des individualités dans les caractères qui sont de bons caractères, n'est-ce pas? C'est ça qui fait une richesse. Et justement, quand on aime que l'autre s'épanouisse. On aime que l'autre, certes, soit attaché à nous, mais qu'il ait aussi cette liberté d'être lui-même, tout en étant à moi. C'est quelque chose qui est difficile dans les relations sentimentales, amoureuses, maritales, dans les relations parents-enfants. On le voit bien hein, quand les parents, quand les enfants commencent à être des jeunes adultes, ça commence à... Les parents sont un peu, voilà, tiraillés de cet amour qui est avec l'enfant adulte parce qu'il commence à être lui-même. Et puis parfois, l'enfant adulte va faire des choix que nous n'avons pas préparés. Nous avons préparé un chemin pour lui et puis là, il a un autre chemin. Du coup, c'est... Et puis au moment de partir de la maison, c'est aussi difficile. Hein. On a bien envie de les garder longtemps. Et puis elle se dit, mais papa, il faut que je parte là. Ok? Là, je commence à être un peu étouffé. Il faut que je sorte un peu. Tu dis, oulala, t'es étouffé à la maison. Ça fait mal aux parents. Mais oui, il y a un âge où l'enfant a besoin d'être lui-même. Et c'est cette jalousie qu'il ne faut pas entretenir. L'amour n'est pas un amour qui empêche l'autre d'être lui-même, qui empêche l'autre de vivre aussi cet épanouissement, même si on est en couple, même si on est dans une famille. C'est pour ça que Dieu, dans son amour avec nous, n'est pas un dictateur. Vous savez, Dieu aurait pu nous forcer de faire tout ce qu'il veut, hein, mais il ne le fait pas. Parce qu'il nous a créés comme ça, des êtres libres. Il nous donne cette liberté. Il a cette liberté. Tout en nous aiguillonnant pour qu'on reste dans le bon chemin, n'est-ce pas? Quand on se soucie avant tout de sa propre image, qu'on cherche à se faire admirer, on ne peut guère se soucier de l'autre, de l'être aimé. Ça s'appelle le narcissisme. Vous savez ce que c'est que le narcissisme? Vous savez que c'est une légende, mais une légende un peu tragique. On dit narcissique, c'est quelqu'un qui aimait regarder son image dans le reflet de l'eau. Il disait, ah, j'étais trop beau. Et la légende dit, à force de contempler son image comme ça de proche, bah, il est tombé, il s'est noyé. C'est ça le narcissisme. À force de trop se plaire à soi-même, on se noie, on se perd. Et les autres n'ont pas de valeur devant nous. On est centré que sur soi. L'amour selon Dieu n'est pas un amour, on est centré que sur soi. Jésus est le meilleur exemple. Il dit, je donne ma vie pour ceux que j'aime. On me la prend pas, je la donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit, alors que nous n'étions pas des gens aimables, Christ nous a aimés le premier. Il dit encore qu'on pouvait aimer des gens qui étaient plutôt des gens bien. Nous, nous étions condamnables. Et pourtant, il nous a aimés en ce moment-là. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. On ne peut aimer ce qu'on regarde de haut. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est il n'y a personne qui me vaut. Je suis le meilleur. Et ça fait qu'on prend tout le monde de haut. Il dit, l'amour ne fait pas ça. Quand on aime les gens, aussi faible soit la personne, aussi maladroite que soit cette personne, elle a des qualités. Il n'y a aucun être humain qui n'a aucune qualité. Ça n'existe pas. Parce que Dieu nous a créés tous à son image, même si nous sommes des êtres pécheurs. Et créant l'image de Dieu, Dieu a toujours mis le bon dans chacun de ces êtres humains. Et Desmond Tutu disait que la quête justement de Dieu, ou la quête dans la relation humaine, c'est de toujours chercher le bon qui est dans l'autre. Et ça a été sa quête en Afrique du Sud, chercher le bon, même si les autres étaient méchants. Il dit non, il y a quand même quelque chose de bon. Et Martin Luther King a eu, bien avant lui, cette phrase célèbre. Il dit, si nous n'apprenons pas à être des frères et des sœurs, nous mourrons tous comme des imbéciles. Donc il disait aux Noirs américains, si on n'apprend pas à être des frères et sœurs avec les Blancs américains, on est dans le même pays. On mourra tous comme des imbéciles. L'amour n'est pas orgueilleux. Quand on aime, on n'agit pas sans s'inquiéter de savoir ce que ça va causer à l'autre. Est-ce que l'être aimé risque d'être blessé? Est-ce que mon prochain risque de vivre quelque chose de difficile? Cela montre aussi le manque de considération. Vous savez, parfois, il y a cette expression qui dit, moi, j'aime dire la vérité. Et moi, je suis aussi de ceux qui aiment dire la vérité. Mais je pense que la parole de Dieu dit que vos paroles soient assaisonnées de sel et de douceur pour que ce soit des fruits de bénédiction et non de malédiction. Une vérité, si elle est difficile, de toutes les façons, elle va faire mal déjà à l'autre. Donc, autant chercher les formes et les façons de le dire. Parce que une vérité que je libère, qu'est-ce que je veux que cette vérité atteigne? C'est que je reste en relation avec le bien-aimé, je reste en relation avec la personne à qui j'ai la vérité. Mais si ma façon de le dire va casser la relation, cette vérité-là, la Bible nous encourage à combiner amour et vérité. Grâce et jugement. C'est le même Dieu qui va nous juger à la fin des temps, mais c'est le même Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui. C'est le même Dieu qui nous fait grâce. Il dit, aujourd'hui, c'est le temps du salut. Si tu entends la voix de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Mais le jour viendra où celui, où l'agneau qui est la grâce sera le juge impartial qui va juger les vivants et les morts. En ce moment-là, il sera dans son rôle de juge et jugera. Nous sommes invités, bien-aimés, à manifester dans notre amour, à faire attention aux conséquences de nos dits, de nos faits sur l'autre. L'autre est un être de chair aussi. L'autre est un être sensible aussi, comme moi. Celui ou celle qui aime ne cherche pas toujours que son intérêt propre. Il considère aussi l'avantage qu'une parole, qu'une action, qu'un investissement, que ce que je veux faire, l'avantage que l'autre va en tirer aussi. Ce qui, du reste, fait partie de cet amour qu'on appelle amour agapé, cet amour désintéressé. L'amour est un amour qui n'est pas toujours en train de dire « qu'est-ce que je gagne moi dans l'affaire ?» Même si des fois c'est important qu'on gagne quelque chose, mais pas tout le temps, pas constamment. Pas constamment. Des fois, on perd pour gagner. Vous savez, le jeu s'appelle « Qui perd, gagne ». Je perds aujourd'hui quelque chose de moi que je donne à l'autre, mais je gagne quelque chose parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui ou celle qui aime ne réagit pas instantanément de façon excessive aux contrariétés ou à ce qui peut irriter. C'est ce qu'on a vu dans les versets 3 à 8, ce qu'il a appelé la maîtrise de soi. Le contraire de la maîtrise de soi, c'est la surréaction. C'est l'irritation qui nous fait rebondir à un quart de tour. Et il y a une expression qui dit « mon sang a viré au noir ». C'est terrible ça. Hein? Quand le sang a viré au noir, ça veut dire qu'il est plein de CO2, de carbone, n'est-ce pas, de CO2. Il n'est pas oxygéné. Et tu mets ton corps en danger. Tu mets ton être entier en danger. C'est pour ça que la Bible dit que la rancune est quelque chose qui nous pourrit, parce que la rancune, c'est quelque chose de pourri, en fait. Donc, quand on est rancunier, on garde quelque chose de pourri qui nous pourrit. C'est-à-dire, la pourriture, quand elle est quelque part, elle contamine tout ce qu'elle est dedans. Pourquoi quand on dit le verre est dans le fruit? Pourquoi? Parce que s'il est dans le fruit, il va contaminer tout le fruit. Celui ou celle qui aime ne tient pas compte du mal, c'est-à-dire ne comptabilise pas. Hein? N'a pas un petit carnet avec un stylo, il note. Aujourd'hui, tu as fait ça, d'accord. T'arrêtes pas. Tu en as fait encore un aujourd'hui. Il a un carnet dans sa mémoire et dans son cœur. À quoi sert ce carnet? À se venger. Sinon, quel est son rôle? Vous savez, comptabiliser le mal peut avoir même des effets somatiques sur nous. Ça veut dire sur notre santé. Parce que quand on comptabilise le mal que quelqu'un nous a fait, dès que la personne est dans notre environnement, en fait, on n'est plus bien du tout. Ne serait-ce que... Et parfois même, on reconnaît le parfum de la personne. Et quand la personne rentre dans notre environnement, on a une réaction hormonale désagréable. Ça a des conséquences même sur notre santé. Combien de personnes ont été déprimées parce que quelqu'un leur a fait du mal et qu'elle veut. Je veux plus le voir. Parce que quand je le vois, je suis dans tous mes états. Je veux plus le voir. Et c'est vrai. Parce que dès que la personne est dans son champ de vision, il y a quelque chose de négatif qui se passe dans la personne. C'est pas ça l'amour. L'amour ne se réjouit pas des souffrances et des injustices de l'autre. Il y a l'expression, c'est bien fait pour sa gueule. De toutes les façons, il a bien cherché. Oui, il a bien cherché, mais ça sert à quoi de le dire, en fait? Ça t'avance à quoi? Et j'aime cette autre expression qui est plutôt utile dans le monde. On dit, je ne le souhaite même pas pour mon pire ennemi. Celle-là, elle est constructive. Je ne le souhaite même pas pour mon pire ennemi. Mais l'amour se réjouit de la vérité. La vérité n'est pas seulement une affaire de parole, mais la vérité est aussi une affaire de comportement. Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un dont les paroles s'alignent avec le comportement. La vérité suscite une forte joie chez ceux qui aiment. Mais il s'agit d'une joie partagée. C'est ensemble qu'on se réjouit de la vérité. Le mensonge est une injustice, une forme d'oppression. L'amour de la vérité et de la joie contribue à unir, à aimer. Il va finalement, verset 7, résumer dans 4 coups de phrase l'essentiel de ce qu'aime veut dire. Celui et celle qui aime est prêt à pardonner en toute occasion, en toute circonstance. Hein, l'apôtre Pierre l'a goûté à ses dépens quand il a demandé au Seigneur Jésus, mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Hein? Parce que Jésus enseignait sur le pardon et l'apôtre Paul avait certainement une expérience qui l'a marqué en tête. Il dit, mais moi je me souviens d'une personne qui ne cesse de me faire du mal. Combien de fois je dois pardonner à cette personne-là? Jésus a cette réponse déroutante. Il dit, tu dois pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois. Quand on sait que le chiffre 7, dans la théologie biblique, c'est le chiffre de la perfection, Jésus est en train de dire, tu pardonnes autant de fois qu'il t'offense. Oh. Mais alors, il va continuer de me faire du mal, ce gars-là. Pardonner, ce n'est pas accepter que le mal n'est rien. Non. Pardonner, justement, c'est de reconnaître que le mal est mal, mais que moi, je ne vais pas faire comme ce mal-là, puisque le mal est mal. Et avoir cette disposition du cœur de pardonner me permet d'entrer dans un processus de pardon. C'est-à-dire que l'autre m'a fait mal, j'ai mal, et je ne vais pas dire que c'est rien, mais je demande à Dieu de m'aider pour que dans cette relation, il puisse arriver un moment où il reconnaisse qu'il m'a fait mal, pour que moi, je puisse passer à autre chose. Et si ça n'arrive pas, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Si tu as fait ce qu'il faut faire pour que cette reconnaissance soit là et qu'elle n'est pas là, recommande à l'Éternel. Parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne prends pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Chacun selon les actes qu'il aura posés. Dieu est le juste juge. In fine. Celui ou celle qui aime fait confiance en toutes circonstances jusqu'au bout. On dit, oula, fait confiance en toutes circonstances jusqu'au bout. Quand même, pas faire confiance aveuglément. Non, il ne s'agit pas de faire confiance au premier venu dans la rue. Il s'agit de faire confiance dans les relations que vous tissez, des relations solides, des relations de couple, des relations de famille, des relations d'amitié. Cette confiance n'entraîne pas la méfiance et le soupçon. Vous savez, vous ne pouvez pas construire une relation solide si vous êtes tout le temps en train de soupçonner l'autre. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Et parce que je ne soupçonne pas le mal, je fais l'effort, lorsque je me sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, de me poser avec la personne. Pour dire, là, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait en parler? Celui qui aime est toujours prêt à entendre même les choses difficiles. On aime souvent dire, il faut qu'on se réconcilie. Mais la réconciliation, c'est quelque chose de très difficile. Parce que déjà, un, vous avez deux points de vue sur le même événement. Il faut que vous arriviez à être d'accord que vous avez vu la même chose ou que vous avez vécu la même chose. Ce qui parfois prend un processus. Et parfois, le processus n'aboutit même pas. Il faut faire l'impasse souvent sur un processus qui n'a pas abouti et confier ça à Dieu. Lorsque la confiance est absente, on pense avant tout à se défendre de l'autre et à ne pas se laisser ouvrir à l'amour. Celui ou celle qui aime espère en toutes circonstances. Ce n'est pas un encouragement à espérer n'importe quoi, à rêver pour fuir la réalité difficile, mais à ne jamais perdre l'espoir en Dieu, en ce Dieu qui est en Dieu agissant. Et je pense que quelqu'un, je le cite parce que il m'a marqué dans mon itinéraire moi-même de quelqu'un qui cherche la justice et la paix aussi. Je travaille beaucoup dans ce domaine. C'est un sujet que j'aborde beaucoup. Si des gens comme Martin Luther King Jr., si des gens comme Desmond Tutu n'avaient pas cette espérance en un Dieu capable de rétablir la justice, ils n'auraient pas engagé les combats qu'ils ont engagés avec la non-violence. C'est parce qu'ils en étaient convaincus. Et ils ont eu raison. Le grand rêve de Martin Luther King s'est accompli aux États-Unis. Son fameux discours « I have a dream », c'était un rêve au moment où il disait ce discours-là. Au Capitole, c'était un rêve. Personne ne pouvait imaginer les États-Unis d'aujourd'hui au moment où il faisait ce discours. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est lui que Dieu a utilisé, avec cette espérance que Dieu est capable. Vous savez ce chant qu'ils aiment chanter les Américains, « Moses, go down ». Si ça, c'est un chant fort, un chant de libération, un chant d'espérance. Quand les esclaves égyptiens étaient les esclaves israéliens étaient en Égypte, ils espéraient sortir de cet esclavage. Et Dieu leur a donné cette espérance par Moïse. Ils sont sortis de là. Ils ont été mis au large sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Enfin, celui et celle qui aime est capable de tenir bon en toutes circonstances. L'amour est solide. L'amour est plus solide qu'on ne le croit. Les plus belles œuvres sont faites par amour. Détruire, c'est facile. Cette tornade qui a dévasté cette région des États-Unis il y a quelques semaines, elle a dévasté en une nuit toute une vie. Toute une vie. En une nuit. Ce qu'il a fallu peut-être 50 ans, 60 ans pour construire, ça a été dévasté en une nuit. Détruire, c'est facile. Mais construire, c'est difficile. Et pourtant, Dieu est avec nous pour construire. Alors, l'amour est éternel, bien-aimé. Si c'est quelque chose d'éternel, il nous faut nous accrocher à ce qui est éternel. L'amour, au contraire, demeurera éternellement et gardera toujours la place centrale au sein de la création de Dieu. L'amour est ce qui demeure la réalité la plus solide. Quel bonheur de découvrir. Comme la Bible nous transforme en bien, elle change en bien notre regard sur les situations, sur les gens, sur la vie. Et l'apôtre Jacques dira, ne vous contentez pas d'écouter seulement, mais faites ce qu'il dit, parlant de la parole. Sinon, vous vous trompez vous-même. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite, qui rend libre, il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit, cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fera. Cette femme-là sera heureuse dans tout ce qu'elle fera. Ce jeune-là sera heureux dans tout ce qu'il fera. Je fais une petite parenthèse, je la ferme. Vous savez, l'épouse idéale, elle n'existe pas. L'époux idéal, il n'existe pas. Nous sommes des êtres parfaits et imparfaits par définition. Mais Dieu nous met ensemble, que ce soit en couple, que ce soit en famille. Les enfants que Dieu nous donne, nous ne les choisissons pas. C'est Dieu qui nous les donne. L'église là où nous vivons, nous ne choisissons pas les frères et sœurs. C'est Dieu qui nous met en famille d'église. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'être des chrétiens régénérés et d'avancer par la grâce de Dieu. Terminons cet encouragement de ce matin. Quel est le but de l'église? Pourquoi vous êtes dans cette église? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes le peuple choisi. Nous sommes le peuple choisi. Pourquoi Dieu nous a choisis? Dieu nous a choisis pour ce but-là. Le but de Dieu en choisissant des croyants pour lui-même, c'est de leur faire annoncer ses vertus devant les autres. Vertus qu'on pourrait traduire par ses qualités éminentes. Ça veut dire les qualités que Dieu seul a, mais qu'il communique aux hommes. Et c'est ce que nous avons vu. Cet amour dont parle 1 Corinthiens, c'est un amour qui vient de Dieu, mais qui communique aux hommes et aux femmes. Les croyants que nous sommes invités à être des sacrificateurs, c'est-à-dire de ceux qui servent Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui servait Dieu au temple, qui est un serviteur, une servante de Dieu. Ils doivent vivre de manière à ce que les qualités de leur Père céleste soient évidentes dans leur vie. Ils doivent être des témoins de la gloire et de la grâce de Dieu qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comment Dieu continue de se faire connaître au monde? C'est par la vie des chrétiens dans le monde. C'est par la vie de l'Église dans le monde. Si l'Église reste vivante, dynamique, pleine d'amour, Dieu est manifesté. Le plus grand miracle, c'est que Dieu rend des hommes imparfaits capables d'aimer et d'aimer selon Dieu. Aimer comme Dieu. Il y aurait tant de choses à dire, mais nous continuerons la suite les dimanches qui viennent. Je vous invite à prier.